Et merci d'être venu au Café Philo, à la Source. On est ravis, c'est la quatrième édition. Alors, on a la chance ce soir d'avoir parmi nous un reporter de la République du Centre, qui va sans doute parler de nous demain, ou un jour prochain, et qui a une question à vous poser. Donc, je lui passe le micro.
Oui, non, c'est ça. Bonjour, ouais, c'est simplement donc la rédaction de Rouen à chaque fois de prendre une photo, bien sûr, hein, pour les événements qui se passent à la Source. Donc s'il y a des gens qui souhaitent ne pas être visibles sur la photo, voilà, qui me signalent. Voilà.
Alors je vais d'abord donner la parole à Thomas Engrand, qui est le directeur des deux maisons des associations, et c'est grâce à lui que nous sommes là ce soir, puisque cette séance est un partenariat entre Philomania et la maison des associations de la Source. Donc on le remercie très chaleureusement de nous héberger, de nous accueillir ce soir.
Merci Madame Cano. Je suis ravie de vous accueillir à la maison des associations de la Source pour cette quatrième Café Philo. Voilà, je vous souhaite de beaux débats animés et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci.
Merci.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Nicolas Déré. Je suis professeur de philosophie au lycée Jean Zay, au centre-ville d'Orléans. Et puis, d'une fois sur l'autre, j'anime le Café Philo avec Laurence, ici présente, professeure au lycée Voltaire, juste à côté. Voilà. Donc, je présente rapidement la façon dont on organise le Café Philo pour que on soit tous bien au fait. Donc, il n'y a pas de sujet qui soit prédéterminé, c'est vous qui allez nous le proposer, ce sujet, cette question, cette thématique. Et vous pouvez proposer autant de questions que vous souhaitez, puis très rapidement, on les prend en note, on délibère, il y a un petit vote, et puis le sujet, donc la question qui qui vous intéresse le plus, qui emporte les suffrages, bien fait l'objet du débat. On termine le débat vers 20h30, 20h45, et puis on vous offre à l'étage, c'est bien ça Marie-France, un pot de convivialité, un temps de convivialité pour partager, prolonger la discussion si vous le souhaitez. Je me permets simplement, parce qu'après je vais oublier peut-être en fin de discussion, parce que je serai pris par l'objet même du débat, de vous rappeler les prochaines dates du Café Philo qui a lieu donc au lycée Jean Zay, en centre-ville. Le prochain aura lieu le mardi 4 février, donc la semaine prochaine, juste avant les vacances scolaires. Et puis ensuite, ça sera pour le mois de mars, ce mardi 11 mars. Et puis, vous avez des conférences également que Philomania organise. Et vous avez une première conférence le mardi 25 mars, qui sera sur le thème de la géohistoire. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Puis, vous avez un site internet qui s'est ouvert depuis le mois de janvier. C'est un petit peu le cadeau d'anniversaire des 10 ans de Philomania. À www.philomania.fr, vous y retrouverez toutes les informations utiles et nécessaires.
Et les podcasts,
effectivement, les enregistrements et les archives des Cafés Philo qui ont pu se dérouler depuis moult années. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas pour poser une question, une thématique, si vous, qui vous anime et que vous aimeriez proposer à la discussion.
Qui a un sujet à proposer ?
C'est bon. Je vais passer le micro, ce sera plus simple comme ça.
Ça vaut pas grand-chose, mais c'est juste pour avancer. Comment traiter la folie dans la société ?
Comment traiter la folie dans la société ? Comment traiter la folie dans la société ? Est-ce que vous auriez d'autres propositions, thématiques, soit sous forme de questions, soit sous forme d'expression ? Bonsoir.
Thank you.
Peut-on présenter une morale?
Peut-on présenter une morale?
Sur la solidarité, on va dire. Enfin, en autre parole, peut-on fonder une morale fondée sur l'opposition à la puissance et à la... Bon, alors je répète avec une petite modification, j'ai retrouvé mon vocabulaire.
Voilà, ok, très bien.
Alors, peut-on fonder, exprimer ou présenter, voilà, peut-on présenter en aujourd'hui une morale fondée sur...
Sur la solidarité.
Oui, on va... Non, c'était pas la seule. Bon, en opposition, de toute façon, à la puissance, à la volonté de puissance et à l'enrichissement par l'accaparement.
L'entraide, la fraternité. Peut-on fonder une morale sur la...
Peut-on présenter une morale fondée sur la solidarité?
Voilà, par opposition à la volonté de puissance.
La sagesse, sur la sagesse.
Sur la sagesse. Donc solidarité, peut-on présenter une morale fondée sur la sagesse par opposition à la volonté de puissance, à la volonté de puissance
et à l'accaparement.
Et à l'accaparement. Mais c'est l'une des manifestations de la volonté de puissance.
Je vous laisse passer une...
Peut-on s'aimer soi-même?
Peut-on s'aimer soi-même?
Alors, moi, je ne peux pas le formuler sous forme d'une question. Je sais pas. J'aimerais bien qu'on parle du temps et de sa représentation.
Le
Alors,
temps.
Que ce soit dans l'image ou que ce soit dans le texte. Voilà. Le temps, l'écoulement du temps, sa représentation. Le temps présent, le passé, le futur... Je ne parlerai pas du temps et de l'espace-temps, on ne va pas rentrer dans ce problème, dans cette question-là, mais voilà, le temps et sa représentation.
Comment se représenter le temps?
Ça peut être la bonne formule.
Très bien.
Il y a Laurence derrière.
Il y avait Laurence. On propose un sujet, il y a une fausse.
Moi, je proposerais bien, quel rapport entretient-on aujourd'hui à l'autorité?
Quel rapport entretient-on aujourd'hui à l'autorité?
À l'autorité.
On fait déjà quelques sujets. Il y a un sujet sur la folie, un sujet sur la morale, un sujet sur l'amour de soi, un sujet sur le temps, un sujet sur l'autorité. Est-ce que vous aviez d'autres propositions, oui, monsieur?
C'est un peu large, mais la place de la philosophie dans notre société moderne. Ou alors, si on veut le formuler par une question, la philosophie a-t-elle encore une place dans notre société? Voilà, tout un programme.
La philosophie a-t-elle encore une place dans notre société?
Nous ou notre société?
Dans nos sociétés modernes. Dans nos sociétés modernes. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Personne ne sera frustré. Non? Je suis pas sûr que le micro marche.
Alors, sujet 1. Comment traiter la folie dans la société? Sujet 2. Peut-on présenter une morale fondée sur la sagesse par opposition à la volonté de puissance et à l'accaparement? Sujet 3, peut-on s'aimer soi-même? 4, le temps et sa représentation, donc comment se représenter le temps? 5, quel rapport entretient-on aujourd'hui à l'autorité? Et 6, la philosophie a-t-elle encore une place dans nos sociétés modernes?
Merci. Alors là, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez. Si les 6 sujets vous plaisent, bah vous votez 6 fois.
Donc, voilà, je rappelle le premier sujet, comment traiter la folie dans la société?
Comment traiter la folie dans la société? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non. 11.
Deuxième sujet, donc peut-on présenter une morale fondée sur la sagesse par opposition à la volonté de puissance et à l'accaparement?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Troisième sujet, peut-on s'aimer soi-même?
1, 2, 3, 4, 5, 5.
Quatrième sujet, comment se représenter le temps?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Cinquième, quel rapport entretient-on aujourd'hui à l'autorité?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.
Et dernier sujet, la philosophie a-t-elle encore une place dans nos sociétés modernes?
Serré.
Oui, c'est serré. Hein. Effectivement, et le sujet qui l'emporte, qui a 20 points, c'est quel rapport entretient-on aujourd'hui à l'autorité?
Très bien.
Merci. Alors, la coutume, je pense que c'est une bonne coutume, parce que ça nous permet d'entrer vraiment dans le débat de manière très personnelle et subjective, c'est de demander à celle ou celui qui a proposé le sujet d'expliquer les motivations, les raisons. Bref, qu'est-ce qui l'anime dans cette question ? Laurence.
Oui, alors je trouve que la question de l'autorité aujourd'hui, elle se pose parce que je ne suis pas sûre qu'on accepte vraiment encore aujourd'hui l'autorité. Et c'est très discuté. On demande beaucoup de démocratie participative, par exemple, pour prendre des décisions au sein de collectifs. Donc, se poser déjà en figure d'autorité, ça peut poser problème déjà vis-à-vis de soi-même. Et en même temps, quand on regarde ce qui se passe de par le monde, moi j'ai le sentiment qu'il y a un retour à l'autoritarisme de façon extrêmement présente, prégnante, comme s'il y avait aussi cet appel à la figure de la personne qui commande, qui domine, qui incarne quelque chose de l'ordre des valeurs dans lequel on se retrouve. Et donc on devient très, on soutient, et on soutient une figure non pas d'autorité mais autoritaire. Alors je trouve que c'est très paradoxal le fait qu'on refuse l'autorité et qu'en même temps on valorise des figures autoritaires. Pourquoi ?
Merci. Merci pour cette problématique. Effectivement, ces figures autoritaires qui émergent de par le monde, où près de soi-même. Et puis, effectivement, cette crise de l'autorité dont on parle depuis au moins Hannah Arendt, sinon plus, effectivement, comme s'il y avait deux tendances qui étaient à la fois contemporaines et contradictoires. Je vous laisse peut-être la parole avant d'entrer dans l'analyse des concepts, puisque vous avez été une grande majorité à vous saisir de cette question. Comment est-ce qu'elle résonne pour vous ?
Je comprends ce qu'a dit Laurence, effectivement, l'autoritarisme et puis la démocratie participative. Et en même temps, je me dis que peut-être qu'on accepte mieux l'autorité si on prend l'origine, qui je pense que c'est autoritas, qui veut dire élevé, ou autorité morale.
C'est ça.
Et qu'en fait, ça va vers l'autodiscipline. Et peut-être que dans ce cas-là, on accepte mieux celui qui nous commande ou nous dirige, en tant que directeur ou en tant que président, par exemple, et qu'on est davantage prêt à un savoir-vivre ensemble. Voilà.
Très bien. Alors juste ce petit point, parce que vous l'introduisez dans votre intervention, effectivement, l'autorité a pour étymologie, c'est une étymologie latine, l'autoritas, effectivement, ça renvoie à l'idée d'élever. L'autorité, c'est ce qui élève celui qui en fait l'objet, celui qui en est le sujet. Donc l'autorité, voilà. Évidemment, on a derrière cette idée l'autorité parentale, par exemple, qui a pour finalité d'élever l'enfant à faire de lui-même son propre maître. C'est-à-dire que l'autorité, c'est d'abord ce qui permet d'élever un individu ou un groupe d'individus, une personne en tant que telle, de façon à ce qu'elle n'ait plus besoin d'autorité, ou qu'elle soit pour elle-même et à elle-même sa propre autorité. Mais effectivement, dans ce temps, je pense que ça va être un aspect important de notre discussion ce soir, dans ce temps qui est celui de l'éducation, effectivement, on a du mal à imaginer l'éducation sans autorité, dans la mesure où l'autorité, c'est ce qui élève, au sens propre, chez les Romains. Vous avez une cérémonie, je crois que c'est 3 mois, je vais peut-être dire des bêtises et vous me corrigerez sur la référence historique que j'ai en tête. Vous aviez une cérémonie extrêmement ritualisée chez les maîtres romains, où le père de famille, le pater familias, puisque c'est lui qui détient l'autorité dans la Rome antique, prend l'enfant, je crois que c'est 3 mois après sa naissance, le soulève, l'élève, le prenant sous les bras, par les aisselles, le met sur ses deux jambes, et c'est à partir de ce moment-là que l'enfant devient une personne à part entière. Avec le revers de la médaille, c'est que si le père, il n'a pas à s'en justifier, j'évoque cela souvent en classe ou devant les étudiants, et ça suscite parfois des sentiments un peu d'effroi, si le père décide que cet enfant ne mérite pas d'être élevé sous son autorité, il ne l'élève pas au sens propre, il ne le met pas sur ses deux jambes, et il lui tord le cou, lui donne la mort, de façon, voilà, parce qu'il ne mérite pas son autorité. Donc effectivement, l'autorité, c'est, on voit bien dans cette anecdote, c'est dans ce rappel historique, c'est à la fois ce qui élève, mais c'est ce qui élève à partir d'un arbitraire aussi. C'est que le père, ici, a un pouvoir de vie et de mort sur celui qui décide ou non d'élever. Je vous laisse. En espérant que le micro fonctionne, celui-ci en tout cas fonctionne.
Ouais, je ne sais pas. Ouais. Oui, je pense que ça a à voir avec le temps. Actuellement, ce qu'on veut, c'est l'instantanéité et l'efficacité. L'autorité, pour quoi faire ? Si ça sert à rien, ben là, on voit bien, au moment de la crise de l'agriculture, ils voulaient des réponses, ils n'en ont pas eu. Au moment des gilets jaunes, c'est la même chose. On demande des réponses, on n'en a pas. Alors, ça sert à quoi, cette autorité ? Voilà.
Ouais. Une crise de l'autorité qui serait liée à ce défaut de réponse instantané.
Oui,
c'est ça.
J'appelle.
Oui, c'est bon.
J'ai un peu l'impression que qu'on a un problème à résoudre et que l'on soit dans un gouvernement, dans une famille, une entreprise ou peut-être une association. Si on ne sait pas le résoudre, eh bien on fait un acte d'autorité. On interdit ou on oblige. C'est facile.
Oui.
Mais je me demande si la première question à se poser, c'est pas de savoir.
Je suis pas sûr que le micro fonctionne. Si, ça fonctionne.
Si, si. Je parlerai comme ça. Si la première question, c'est savoir si. Celui qui prétend exercer une autorité, d'où elle lui vient? Pourquoi il a cette. Enfin, il est autorisé à quoi? Qu'est-ce qui l'autorise à avoir cette autorité? En fait, c'est d'où nous vient la légitimité à représenter une autorité. Alors, quand on est parent, par exemple, c'est l'état civil qui. Mais encore que c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, présenter des choses à celui qu'on veut élever, lui présenter des choses qui sont intéressantes et importantes pour lui. Et on peut l'opposer en ça, l'autorité. Enfin, une autorité qui est reconnue, c'est un peu le contraire de l'autoritarisme. Parce que l'autoritarisme, ce n'est pas une autorité reconnue, c'est une autorité imposée.
Oui, je vous laisse réagir et puis.
Oui, alors, sur ce sujet de l'autorité, c'est un sujet sur lequel moi j'ai commencé à réfléchir il y a très très longtemps, et avec d'autres personnes. Et en fait, pour moi, en fait, l'autorité qui a du sens procède d'un témoignage, ou d'une capacité de témoignage. Et lorsque on est face à une personne qui, parce qu'elle est, en fait, nous invite à évoluer, à changer, etc., on donne à cette personne une autorité, morale en particulier, mais aussi une autorité, en fait, on écoute ce qu'elle dit, on écoute ce qu'elle peut dire. Et en fait, quand un professeur, quand un enseignant peut tenir ce rôle, en fait, de témoin devant ses élèves, son autorité devient, à mon sens, naturelle. Et donc je pense qu'il y a toute une... D'ailleurs, toute une filiation sur cette idée d'autorité qui provient d'un truc de la Bible dont je ne me rappelle plus, je suis désolé, mais bon. Et qui n'avait été communiqué, en fait, par un ami, en fait, dans un contexte relativement proche du catholicisme. Alors, par contre, dans le monde actuel, en fait, on a une montée de l'autoritarisme et on a des autorités qui veulent s'imposer. Et là, je pense, moi, que l'exemple romain, historiquement, c'est un exemple qui s'impose, effectivement, mais ce n'est pas un exemple à suivre. Rome, c'est quand même bien loin, et Rome, c'était une société esclavagiste, impérialiste, qui, à mon sens, n'est pas un exemple à suivre. Bon. Et donc, aujourd'hui, en fait, au travers de ce que nous proposent les médias, ce que proposent les médias sociaux, il y a toute une manipulation de l'information, une manipulation des populations, d'une façon très globale, qui nous infantilise et qui nous amène en fait à accepter l'autorité d'un gouvernement, d'un État, d'un tyran, avec des exemples actuellement de tyrans qui deviennent de plus en plus tyranniques. On voit le risque de dérive aux États-Unis, on voit des populismes, on voit de l'extrême droite, des risques de dérapage en fait, extrémiste qui se présentent un peu partout autour de nous. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est de l'autoritarisme, ça n'a rien à voir, à mon sens, avec l'autorité réelle. Voilà.
Merci. Oui, je me permets d'intervenir un petit peu. Merci pour vos interventions. Sur une double distinction, mais que vous avez déjà élaborée en partie, conceptuelle. La distinction, d'abord, entre l'autorité et la domination. C'est qu'effectivement, la domination... elle s'impose à moi malgré moi. C'est ce qui me contraint. La domination, elle m'impose des contraintes. Elle m'aliène. Elle m'empêche de. Mais par la force. Alors, il y a plusieurs fondements de la domination, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne consens pas à la domination. Il y a la violence dans la domination. Alors que l'autorité...
telle que vous l'avez décrite, vous parliez de témoignages, vous parliez des fondements de l'autorité, alors que l'autorité, c'est cette... Excusez-moi. Je perds un peu ma voix aujourd'hui. C'est cette personne ou ce groupe de personnes, c'est ce statut qui s'impose à moi de mon propre chef, auquel je consens. Pour le dire autrement, l'autorité, elle n'impose pas de contraintes, l'autorité, elle fixe des obligations. C'est ça la distinction, la deuxième distinction, c'est la distinction entre contrainte et l'obligation. La contrainte limite ou nie ma liberté. L'obligation, c'est l'expression de ma liberté. L'obligation, c'est ce que je m'oblige à moi-même. C'est de l'ordre du devoir. Et lorsque j'ai face à moi une autorité qui s'impose par la force de son témoignage, par la valeur de l'exemple, comme vous parliez de l'autorité d'un professeur, par exemple. Lorsque j'ai une autorité, on va peut-être, je ne veux pas forcément déflorer tout le débat, mais sur d'autres critères, lorsqu'elle s'impose à moi d'une façon si évidente que j'y consens, Elle fixe des devoirs, elle fixe des obligations, et elle n'est plus de l'ordre de la contrainte. Pour prendre un exemple relativement simple, je ne suis pas contraint de payer des impôts en tant que citoyen qui reconnaît l'autorité de la République française. Je m'y oblige. Autrement dit, il y a une obligation du citoyen français de contribuer au bien public. D'ailleurs, le terme d'impôt n'est pas un terme bien choisi. L'impôt, c'est ce qui s'impose à moi et c'est ce qui va me chercher mes sous dans ma poche. Moi, il se trouve que j'en ai pas là. Enfin, si, j'en ai plus. Alors que la contribution, eh bien, c'est ce que je m'impose à moi-même en tant que citoyen pour le bien public, pour l'intérêt général. Et l'autorité de l'État, l'autorité fiscale, si je la reconnais comme étant légitime, elle ne me contraint pas, elle m'oblige à. Et dans un monde parfait, c'est-à-dire dans lequel le citoyen reconnaît la légitimité de l'autorité qui s'impose à lui, bien en fait, il n'y a pas de rappel à l'ordre, et chaque citoyen contribuerait de son propre chef, ferait de son propre chef son propre devoir de citoyen, il irait voter, il irait contribuer au bien public en donnant telle ou telle somme d'argent en proportion de ses revenus, etc., etc. Il n'y aurait pas de système de défiscalisation et autres contournements de la loi fiscale. Et vous voyez bien que finalement, cette distinction, cette double distinction entre la domination d'un côté et l'autorité, entre la contrainte et les obligations de devoir, nous permet peut-être déjà de tracer une ligne, c'est-à-dire quel rapport entretenons-nous aujourd'hui à l'autorité ? Ben, peut-être qu'aujourd'hui nous vivons une crise de l'autorité, dans la mesure où nous avons du mal à y voir une figure d'autorité, où elle prend pour nous soit la forme, soit la figure d'une domination, d'une contrainte, et on cherche à la contester, on cherche à y échapper, de la manière la plus efficace possible pour nous, soit, au contraire, elle prend pour nous la forme d'un visage, celui d'une autorité autoritaire, c'est-à-dire qui n'oblige pas mais qui contraint, celle d'un tyran, et qui viendra ici, par la force, rétablir un ordre qui, à nos yeux, est totalement perdu. Autrement dit, il me semble que la crise de l'autorité que nous vivons peut-être, d'ailleurs, si vous êtes d'accord sur ce diagnostic, je vous laisse en débattre. La crise de l'autorité que nous vivons dans nos sociétés modernes vient peut-être de ce que, à nos yeux, ou aux yeux en tout cas d'un certain nombre de nos citoyens, de nos concitoyens et concitoyennes, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus que soit du chaos, et auquel cas il faut une figure autoritaire, mais qui n'est pas celle d'autorité, qui est celle d'un tyran, soit de la domination, et auquel cas il faut la contester, il faut la fuir, il faut la révolte, il faut la remettre en cause. Mais effectivement, cette autorité qui s'imposerait d'elle-même, qui fixerait à mes yeux comme une évidence un certain nombre de devoirs, d'obligations que je m'obligerais à moi, de mon propre chef, à respecter, elle semble aujourd'hui en crise, en tout cas elle semble aujourd'hui discutée et discutable. qu'il s'agisse de l'autorité d'un professeur, d'un médecin, d'un ou d'une dirigeante économique, politique, enfin bref, on pourrait prendre différents évidemment, domaines où l'autorité est censée s'imposer et où elle est contestée et où elle est en crise et où effectivement elle donne lieu à des figures, comment dire, contraintes de l'autorité qu'on appelle le tyran.
Mais l'autorité que vous décrivez, qu'on accepte, qu'on intègre, ça peut être aussi l'autorité d'un gourou ?
Tout à fait, oui. Je veux bien qu'on revienne dessus. Enfin, n'hésitez pas à rebondir sur cette très juste intervention, effectivement, sur la question du gourou, enfin du dignitaire ou la dignitaire qui prétend représenter plus que lui et qui finalement représente lui-même au sein d'une communauté qui est endoctrinée, oui, effectivement, sur la manipulation.
Au regard de ce que vous avez dit, on voit bien les contours de quelque chose de consensuel, comme un contrat social qu'on passe dans un cadre déterminé, en se disant voilà les règles du jeu, et on va jouer à l'intérieur de ces règles du jeu. Et il y a un chef d'orchestre qui va animer ça pour veiller à ce que les gens puissent rentrer dans ce cadre consensuel. L'adhésion à la notion d'autorité, elle est soit reconnue parce qu'elle a le pouvoir de compétence, soit reconnue parce qu'il y a une démocratie et elle est élue, représentative pour avancer. Moi, la question qui se pose pour moi est sur une frange plutôt de quand l'idéologie intervient au service de l'autorité pour pouvoir biaiser le jeu en faisant croire au peuple qu'elle est toujours dans le cadre réglementaire. Et là, on bascule dans quoi ? Je prends pour exemple juste les événements derniers. Quand le discours qu'on tenait à Mendes France, en le traitant de juif qui mange le pain des Français, qui n'a rien à faire ici, qu'il est à part, et à l'époque, c'est impensable de le tenir aujourd'hui. Sinon, on est traité d'antisémite et condamnable, parce que les lois ont évolué, la réglementation a évolué. Ce qui se passe actuellement, ou ce qui est en train de se dérouler, peut-être calmement et on l'espère, en Palestine, à Gaza, et lorsqu'on commence à vouloir sortir, manifester, ou à tenir des propos en dénonçant, au moins, tel ou tel propos, telle ou telle chose, et on est traité d'antisémite. On voit le renversement de situation. Le maghrébin d'aujourd'hui se trouve traité de... Et on a entendu encore le Premier ministre aujourd'hui de la France submergée. On voit qu'il y a derrière une construction, et cette construction idéologique vient limiter le champ et en s'imposant comme la règle. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette dialectique-là ? À la fois, je te reconnais et je reconnais les règles, mais à la fois, les règles changent et je n'ai pas le droit de m'exprimer, je fais comment ?
Merci. Je vais vous laisser...
Alors, une réflexion purement, enfin, je dirais, théorique, c'est-à-dire que comment accepter l'autorité ? Qu'est-ce qui fait qu'une autorité est légitime ou pas ? Et il me semble que pour accepter une autorité quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit au moins légitime. Légitime, disons, peut-être fondée moralement, bienveillante, et également pour qu'elle soit acceptée, une autorité doit servir quelque chose qui est plus grand qu'elle-même. Donc si je suis un homme politique ou un chef d'État, si je travaille pour le bien commun, l'intérêt général, je sers quelque chose qui est plus grand que moi, et donc, a priori, je suis légitime. Dès lors que l'autorité travaille, disons, pour simplement pour elle-même, on passe de l'autorité à l'autoritarisme. Et donc, Voilà, juste faire cette distinction entre effectivement une autorité légitime et une autorité qui dépérit ou qui dévie. Et là, à ce moment-là, on tombe dans l'autoritarisme, par exemple, au moins politiquement.
Merci.
Oui, je voulais réagir tout à l'heure. Quelqu'un a dit, oui, crise d'autorité, je crois que c'est toi, Nicolas, et qui disait, voilà, un prof, un médecin, un politique, enfin, voilà, on remet toutes les autorités en cause, etc. Est-ce que c'est pas dû à la montée de l'individualisme? C'est pas nouveau, il y a déjà 30 ans, il y avait un bouquin qui s'était intitulé 50 millions d'individus sans appartenance. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait très bien que. Il y a 50 ans, les personnes naissaient, il y avait des autorités, en tout cas des environnements établis, l'Église, les syndicats, etc. Enfin, voilà, des groupes sociaux établis qui faisaient que les choses n'étaient pas remises en cause et que désormais, et surtout depuis les années 80-90, et en plus avec la montée des nouvelles technologies, enfin, on parlait des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on dit à la personne, par exemple, en termes de journalisme, c'est intéressant, on dit à la personne, vous êtes votre propre média. Oui. C'est-à-dire que c'est pas. Le rôle des journalistes n'est plus du tout mis sur un piédestal, puisque, en fait, moi, je peux être mon propre journaliste. Quoi, voilà. On dit à chacun, voilà, bah, prends-toi en main, c'est toi qui décides de ton destin, tu es l'individu souverain, voilà. Est-ce que cet environnement fait que, naturellement, bah, l'individu souverain, il reconnaît plus vraiment les autorités établies auparavant, et même, il conteste systématiquement, puisque je suis souverain, quoi, voilà.
Merci pour vos éclairages. Bon, je vous laisse la parole tout de suite. J'allais la reprendre, mais allez-y.
Oui, alors, par rapport à ça, comment dire ? En fait, la montée de l'individualisme s'accompagne d'une responsabilisation de l'individu. Donc, tout un discours qui, moi, me fait beaucoup réagir. Enfin, on se dispute beaucoup sur ce sujet-là. Mais en fait, on dit à chaque individu, vous êtes chacun responsable de vos actes et de vos décisions. Et donc, vos actes et vos décisions, à votre petit niveau, c'est ce qui compte le plus. Dans ce discours-là, en fait, on encourage, ou on amène les individus à prendre des décisions qui, éventuellement, n'ont pas d'impact réel sur les mécanismes, sur les choses, enfin, sur les événements, qui les concerne, qui compte. Je prendrai le cas, par exemple, de la crise climatique actuelle. Bon, quand on responsabilise chacun sur le fait de consommer moins d'eau, de faire attention à trier ses poubelles, etc., bon, c'est très bien. Mais par contre, quand ce sont des multinationales qui produisent des millions de tonnes de plastique, qui ne veulent surtout pas qu'il y ait une discussion sur la production de plastique, mais qui viennent vous dire, vous devez trier les différents plastiques, etc., et c'est de votre responsabilité en tant qu'individu, en fait, cet individualisme-là, c'est le fruit d'une manipulation dont nous sommes victimes depuis des décennies, je dois dire. Donc l'individualisme, oui, ça existe, mais à mon sens, je dirais pas que c'est un rideau de fumée, mais c'est quelque chose qui est utilisé d'une part pour décrédibiliser les groupes, les structures, ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, si vous voulez. Bon, les syndicats, tout ce qu'il y a comme collectif.
Oui,
et en fait, au niveau des collectifs, les collectifs ont une puissance d'agir beaucoup plus grande que l'individu. Mais ça, ça gêne. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là.
Oui, si je fais un petit peu un petit temps de synthèse hein, par rapport à vos différentes interventions. Si je reprends la question de la crise de la légitimité de l'autorité, qu'est-ce qui fonde la légitimité d'une autorité? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que j'y consente et que je la considère comme étant une autorité, non pas comme une structure de domination à laquelle il faudrait échapper ou qu'il faudrait contester? Je vais me transformer un petit peu en prof de philo. Hein. Je m'en excuse, mais très rapidement, je pense qu'on a une réponse, on a un début de réponse en tout cas, qu'il faudrait sans doute actualiser et compléter, dans une conférence que donnait le sociologue et philosophe, mais sociologue surtout, Max Weber, le sociologue allemand Max Weber, dans Le savoir et le politique, c'est traduit en français Le savoir et le politique, une conférence qu'il donne de mémoire en 1917. En Allemagne, et où il interroge cette question de l'autorité. Et Weber évoque, à ce moment-là, c'est un passage célèbre de sa conférence, les trois fondements de l'autorité. Alors, il parle de l'autorité politique. Il faudrait peut-être effectivement ouvrir vos remarques, on ouvre l'autorité sur d'autres champs, le champ journalistique, le champ scientifique, le champ associatif. Et donc ces trois fondements de l'autorité, dit Weber, sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'il appelle l'éternel hier. L'éternel hier. C'est-à-dire, c'est la tradition. C'est la force de la tradition. Qu'est-ce qui fonde l'autorité? C'est ces temps immémoriaux, enfin, considérés comme étant immémoriaux, qui donnent toute sa puissance à une parole, à un porte-parole, à une politique, à des types de comportements. Avec derrière, d'ailleurs, toute une sorte de guérilla pour savoir, mais finalement, qui crée la tradition? Est-ce que cette tradition est vraiment une tradition ou est-ce que c'est une tradition reconstruite pour des besoins idéologiques? Donc l'éternel hier, finalement, ça a toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Quoi. Voilà. Le second fondement, c'est ce qu'il appelle, c'est le charisme. C'est le charisme personnel, c'est l'éclat personnel. Et là, c'est ce qu'on revient un peu à ce que vous disiez initialement, sur la force du témoignage, sur la valeur d'exemple de celui ou celle qui incarne l'autorité, soit par ses exploits, pensons, je ne sais pas moi, l'autorité d'un général de Gaulle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, voilà, ou d'un Mendès France. Voilà. Donc, soit par ses exploits, soit par la force de son engagement, force de son vécu. Pensons à la parole ou les paroles fortes des survivantes et des survivants de la Shoah hier. Ce sont les paroles qui font d'autorité. Parce qu'elles sont prononcées par des personnes qui ont vécu ce que d'aucun n'a pas vécu. Donc ce pourquoi on les entend et ce pourquoi on les honore. Et puis un troisième critère. Et il nous dit que c'est le propre de l'État moderne, qui est l'autorité qu'il appelle rationnelle légale. Le rationnel légal, qu'est-ce que ça signifie? C'est une autorité qui est fondée sur ce que la raison, comme son nom l'indique, examine, une sorte de, vous voyez, d'analyse logique, de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, le tableau de proportionnalité, voilà, les gains et les pertes, possible à tel ou tel type de politique, et légal, c'est-à-dire ce que une communauté s'entend pour définir comme règle commune, ce que vous évoquiez, monsieur, sous la forme d'un contrat social, par exemple. Et finalement, ici, l'autorité s'impose, non pas en vertu d'une tradition immémoriale, non pas en vertu du charisme de celui ou de celle qui l'incarne, mais en vertu, finalement, de ce qu'une communauté s'entend aujourd'hui, à un moment donné, pour se donner comme règle commune. Et il nous dit qu'à partir de ce moment-là, qu'il s'agisse de l'un de ces trois critères, et souvent, dit-il, cette distinction est purement conceptuelle, les trois critères se mêlent les uns les autres, et vous voyez bien qu'on va accorder nos suffrages à une personne digne de confiance, qui par son charisme représente, etc. etc., etc. Et qui elle-même va faire appel à une tradition lointaine pour s'enorgueillir de ceci ou de cela. Bref, une fois que cette autorité est mise en place sur ces critères-là,
on la reconnaît comme étant légitime, non pas forcément comme étant morale. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Il peut y avoir effectivement le caractère, le fondement moral est l'un des critères de l'autorité, mais l'autorité n'est pas forcément une autorité morale. Bref, on la reconnaît comme étant légitime, et auquel cas on y consent, et auquel cas finalement ce n'est plus une contrainte qui s'impose à moi, c'est une obligation. Et nous pouvons faire société. Et nous pouvons nous élever les uns les autres, si je voulais reprendre l'étymologie latine de l'autorité, vers ce qu'il y a peut-être de meilleur. La crise de l'autorité, s'il y en a une, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs de partager forcément ce diagnostic, vient de ce que ces trois critères aujourd'hui sont mis en débat. La tradition, on a l'impression que soit elle est convoquée pour, j'allais dire, de mauvaises raisons, j'ai quelques exemples en tête, soit, au contraire, elle est critiquée pour de mauvaises raisons. Il va bien que, et quel que soit le rapport qu'on a à la tradition, finalement, on est dans une société de l'instant, vous le disiez, on est dans une société, finalement, on attend des réponses assez immédiates, avec effectivement cette montée en puissance de l'instantanéité liée à des réseaux sociaux, etc. Et finalement, l'appel à la tradition résonne comme soit, encore une fois, de mauvais clins d'œil, soit quelque chose dont il faudrait se méfier. Sur le charisme, bah effectivement, là on n'est pas loin de ce jeu sur lequel les tyrans font leur miel. Et puis sur le rationnel légal, c'est là qu'est la crise. C'est-à-dire comment s'entendre sur une loi commune à partir du moment où chacun se considère comme son propre maître, ce que vous appeliez l'individualisme, et finalement chacun ne s'attache à respecter la loi commune que lorsqu'elle sert ses intérêts, ses valeurs, ce à quoi elle est attachée. Donc je pense que cette crise de l'autorité, elle vient de ce que finalement les fondements qui justifient la reconnaissance de l'autorité en tant qu'autorité, aujourd'hui ne vont plus de soi. Alors, soit pour des raisons, pour plein de raisons, pour des raisons évidemment sociales, politiques, pour des raisons d'évolution des mœurs, mais aussi peut-être pour des raisons qui sont moins, comment dire, moins identifiables, qui sont des raisons idéologiques, qui sont des raisons peut-être bassement politiques. Je vous le redonne le débat. Notamment peut-être pour essayer d'interroger, si je veux orienter le débat, mais sans trop vous contraindre. Ça serait quand même un paradoxe. Ouais, je veux bien faire preuve d'autorité, mais pas d'autoritarisme. Voilà. Enfin, oui, peut-être essayer de penser sur la question de l'autorité. La question de Laurent, c'était quel rapport avons-nous à l'autorité aujourd'hui ? Sur d'autres champs, peut-être que le champ uniquement politique. Je pense notamment à ce que tu évoquais sur le champ scientifique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité scientifique est-elle mise en cause, discutée plus haut même de certains régimes politiques. Il est bien qu'un Donald Trump se fait élire, non pas en dépit d'eux, mais à cause de sa remise en cause de l'autorité scientifique. Voilà, il affirme ouvertement son climato-négationnisme, c'est même pas du scepticisme, c'est du climato-négationnisme, et ça marche. Donc finalement comment faire société lorsque l'autorité qui est censée être celle de la science est elle-même considérée comme n'étant plus une autorité ? J'ouvre le débat vers cette question, mais parce qu'elle m'intéresse, mais n'hésitez pas. On va peut-être donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas encore eu...
N'hésitez pas. Hein. Priorité.
Il me semble, d'une part, en suivant, il y a quand même un courant idéologique qui dit que il n'y a que l'individu, la société n'existe pas. ça a été très... C'est
Margaret Thatcher.
Par exemple.
Non, mais c'est une citation de Margaret Thatcher, non, c'est un discours de Thatcher dans les années 80.
D'autre part.
86, je crois.
D'autre part, et je vais peut-être sortir un peu, revenir un peu terre à terre, il y a l'autorité de la compétence. En tout cas, on prête aux gens compétents une certaine autorité, mais qui, me semble-t-il, est mise en cause actuellement. Parce que si je m'adresse à une personne compétente, c'est pour qu'elle réponde à ma demande. Et si sa réponse n'est pas satisfaisante, malgré ses compétences, son autorité est remise en cause. Et il me semble que dans ce fonctionnement-là, c'est surtout l'émotionnel qui répond. C'est-à-dire, je suis frustré, je n'ai pas la réponse que j'attendais, et on abandonne le rationnel, et pourquoi est-ce que cette autorité soit reconnue, compétente, m'adresse une réponse qui ne me satisfait pas et en quoi cette réponse est fondée? On ne se pose plus cette question-là. La simple réaction, c'est « je n'ai pas la réponse que j'attendais, je suis insatisfait ». Donc, c'est une autorité que je ne reconnais pas, en fait. Et il me semble que c'est ce mécanisme qui se situe au niveau que je décris moi au niveau individuel joue quand même beaucoup sur le fonctionnement social actuel. C'est-à-dire, de toute façon, c'est ce que j'ai à exprimer qui compte.
Oui, je pense qu'en ce qui concerne les scientifiques, une part de leur crédibilité a été entamée parce qu'il y a beaucoup de scientifiques que j'aurais tendance à qualifier de corrompus, qui roulent pour des intérêts privés en tordant la science. Je pense par exemple à tous ceux qui ont nié les problèmes de dérèglement climatique, à tous ceux qui ont nié la toxicité de l'amiante, à tous ceux qui ont nié le caractère cancérigène du tabac. En fait, ils travaillaient pour les grands groupes qui avaient tout à fait intérêt à ce que ces idées-là soient répandues. Donc, du coup, le public a, je pense, perdu confiance dans les scientifiques, alors qu'il aurait dû perdre confiance dans certains scientifiques. Et je pense que le problème est aggravé du fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de recherches publiques. Il y a pratiquement presque plus que de la recherche privée. Donc trouver des scientifiques qui ne soient pas ligotés par des intérêts privés devient très difficile.
Merci.
Il y a aussi d'un autre côté les scientifiques, un bon scientifique dit voilà ce que je crois être la vérité, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tout scientifique doit admettre que ce qu'il explique peut être mis en cause par une autre découverte. D'ailleurs, ceux qui ne l'acceptent pas, en général, ne sont pas des vrais scientifiques.
Ce sont des idéologues.
Voilà. Donc, le fait de dire je ne suis pas un scientifique, hein, mais je me mets dans la peau du scientifique qui dit moi-même en tant que scientifique, je vous présente quelque chose, je ne suis pas sûr que ça soit la vérité vraie. Donc les gens peut-être ont aussi tendance à voir maintenant que un scientifique, si il pense dès le départ que ce qu'il avance comme théorie n'est peut-être pas la bonne, on peut le remettre en cause plus facilement. Voilà. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on remet en cause l'autorité scientifique beaucoup plus qu'avant, parce que maintenant les scientifiques disent que, et puis on le voit, ça avance tellement vite qu'on voit bien que ce qui était valable un jour n'est plus tout à fait la même chose le lendemain. Il y a des avancées qui font qu'on va remettre en cause certaines vérités, certaines choses auxquelles qu'on croyait exactes, qui ne sont plus exactes parce qu'on a démontré autre chose. Donc il y a peut-être ça aussi derrière.
Juste pour réagir, oui, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Marie France sur la corruption quoi de certains scientifiques de fait, hein, puisqu'en fait on a eu après la guerre ce qu'on appelait les marchands de doute. Voilà. Oui. Les marchands de doute, on l'a vu pour le tabac, je veux dire que très clairement, durant des décennies, il y a eu des mouvements pour insinuer ou pour effectivement, alors qu'on savait pertinemment que ça c'était néfaste pour les voilà pour la santé, pour les poumons, etc. À chaque fois on disait ouais, mais attention, c'est multifactoriel, et c'était des stratégies, enfin voilà, organisées, préméditées, voilà. Et c'est vrai que bon, bah, les gens sont un peu perdus parce que effectivement, et ça continue avec les pesticides actuellement, ça continue avec plein de choses. On sait plus très bien où on en est parce qu'il y a des organisations, des communications ciblées vers des revues influentes, etc. Puis après, c'est repris par les médias et c'est amplifié effectivement avec les réseaux, bien sûr. Ouais.
Ce que vous dites, oui, ça me fait penser qu'effectivement, l'autorité, maintenant, c'est peut-être ceux qui détiennent l'argent. C'est ceux qui détiennent l'argent qui ont l'autorité. Et du coup, tous les autres ne deviennent plus crédibles. Ou du coup, voilà, l'autorité politique, l'autorité, enfin, elle perd son sens. Parce qu'en fait, on sait derrière qu'il y a plus ou moins une autorité, quelqu'un qui, enfin, un groupe qui détient de l'argent et qui supplante l'autorité. Une autorité morale ou une autorité politique.
Ça serait une sorte de tension entre... Je ne sais pas tout de suite, monsieur. De tension entre l'autorité d'un côté et le pouvoir de l'autre. Finalement, le pouvoir ne serait...
Le pouvoir lié à l'argent.
Voilà, le pouvoir ne serait plus dans les mains de l'autorité, mais dans des puissances agissantes qui ont les moyens d'exercer leur pouvoir, à savoir des moyens économiques.
Je voulais juste citer un exemple récent, c'est que le glyphosate avait été considéré comme cancérigène probable.
Bien sûr.
Il y a dit probable, pas possible. Il y a déjà un certain nombre d'années, je ne sais pas combien exactement. Or, la Commission européenne l'a prolongé de 10 ans. Ouais.
Parce que, étude. Pour mettre à l'étude...
Ça, ben oui, mais c'est eux qui ont l'autorité aussi. Ouais. Alors, comment respecter ce genre d'autorité? Bon, moi, je vais faire du mauvais esprit, une fois de plus. Je dirais tout simplement que si Bayer n'avait pas racheté Monsanto, les Allemands n'auraient pas poussé...
C'est ça.
Le glyphosate aurait été interdit.
OK.
Vous en pensez ce que vous voulez.
J'en pense... Le plus grand. Monsieur, vous vouliez intervenir tout à l'heure.
Je voulais dire qu'on est un peu ambigu aussi concernant l'autorité, parce que on la refuse, on la critique, mais on aime bien l'autorité. Le discours de la servitude, c'est ça aussi, c'est accepter l'autorité. Et on parlait de Trump tout à l'heure, les gens ont voté Trump donc pour quelqu'un d'assez autoritaire. Mais ils l'ont fait contre l'autorité supposée de l'establishment démocrate.
Oui, ce que vous dites est très, très juste, et ça nous permet peut-être de rebondir sur ce qui a été évoqué précédemment. Effectivement, on a chacun, en tout cas, moi je parle pour moi, hein, pas forcément pour vous, cette ambiguïté du rapport à l'autorité. À la fois, on la réclame, cette autorité, parce qu'elle encadre, parce qu'elle nous permet de nous élever, de vivre ensemble, parce qu'elle nous guide, peut-être, ça sera peut-être à soumettre encore une fois à vos réflexions, peut-être jusqu'à l'excès, jusqu'à ce que vous évoquiez tout à l'heure la figure du gourou. Donc on a ce besoin d'autorité, que l'on va très vite confondre avec un besoin d'autoritarisme, de l'homme, je dis bien l'homme, avec l'idéologie viriliste derrière, véhiculée, l'homme fort qui va remettre de l'ordre dans cette chienlit, etc.
c'est assez rare, hein, pour parler comme général de Gaulle. Et en même temps, on la conteste parce que on se considère comme étant suffisamment expert, parce que ça n'est pas adéquat à nos attentes, parce qu'effectivement, on a des bonnes raisons parfois à la contester, cette autorité, parce qu'elle a montré des signes de faiblesse, de corruption, etc., etc. Et parce que le propre de l'autorité, c'est ce que vous évoquiez pour la science, mais je pense que ça vaut peut-être pour toute forme d'autorité, je pense notamment à l'autorité éducative que j'ai en tête, hein. C'est que l'autorité, elle ne s'appuie pas sur des certitudes, elle s'appuie sur une éthique, j'allais dire, de l'honnêteté, une éthique de la bienveillance, une éthique, elle vise le bien de celui à qui l'autorité s'adresse, mais elle ne s'appuie pas sur des certitudes, elle s'appuie sur des convictions, s'appuie sur des démonstrations, s'appuie sur un travail d'enquête, de recherche, une rationalité, une mise à l'épreuve des faits. Mais, comme vous disiez à propos de la science, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire, c'est la réfutabilité des théories scientifiques, c'est la réfutabilité du travail du journaliste, c'est la réfutabilité du travail du professeur, c'est la réfutabilité d'un diagnostic médical, effectivement, en disant, mais nous avons suivi le protocole tel que nous devions le suivre, nous avons tenter, par exemple, de procéder à charge et à décharge, d'enquêter de la manière la plus scrupuleuse possible, de rendre compte des faits de la manière la plus exhaustive, la plus honnête possible. Voilà le résultat. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce sur quoi mon autorité va se fonder. Mais peut-être est-ce discutable. Peut-être y a-t-il des failles. Peut-être y a-t-il des éléments que nous avons laissés de côté. Et peut-être y aura-t-il une enquête à venir qui viendra remettre en cause, ou en tout cas discuter, pas forcément remettre en cause, mais en tout cas nuancer, discuter, limiter la véracité ou la légitimité de mon propos. Et c'est dans cette éthique, finalement, du doute, c'est ça l'autorité. L'autorité, c'est ce qui accepte aussi son propre doute, c'est ce qui donne à celui qui est assujetti, la possibilité de la contestation. C'est peut-être dans cette éthique de l'autorité, donc qui accepte sa propre faille et la mise en question de son autorité, que s'engouffrent ensuite les marchands de doute, les tyrans en herbe, ou pas en herbe, c'est-à-dire, vous voyez bien que c'est du n'importe quoi, il a dit ça, mais, machin, et moi ce que j'ai en tête, hein, vous avez glyphosate, évidemment, ce que j'ai en tête, c'est tout ce qui s'est joué au moment de la pandémie de la COVID-19, des médecins qui. Enfin, des autorités médicales et scientifiques qui attestaient la pandémie, puis des discours plus ou moins délirants, complotistes et autres qui émergeaient sur les réseaux sociaux, des professeurs out qui vous soignent avec l'hydrochloroquine, et qui, à un moment donné, quand même, emportent des faveurs assez folles.
Les manifs anti-vax faisaient du monde.
Avec des manifs anti-vax qui font du monde. Avec derrière cette question de « mais regardez, vous voyez bien que cette autorité n'est pas crédible, puisqu'elle n'est même pas assurée de la validité des vaccins qu'ils cherchent à nous mettre dans nos veines. » Bien sûr qu'on ne peut pas en être assuré, puisque on vient de s'adapter à la situation. Et donc vous voyez bien que le scientifique a cette éthique de dire que, évidemment, on a fait tout ce que l'on pouvait faire pour mettre en place un vaccin qui puisse nous protéger et limiter la circulation du virus, et puis en tout cas atténuer les formes graves, et puis avec le doute qui est en vigueur évidemment dans la démarche scientifique, d'où après la faille dans laquelle on s'engouffre.
Bon, je vais me faire incendier.
Allez-y. Ouais. J'ai pas une tendance incendiaire.
Mais... Non, mais peut-être d'autres dans la salle. Bah. Bon, je suis allé une fois, une seule, à une manif d'anti-vax. Bah, j'en suis revenu édifié.
Ah oui?
Parce que bon, c'était du n'importe quoi, on prend pas ça, balancer les masques, jusqu'à balancer les masques. Sans commentaire.
Sans commentaire, ça veut dire que...
Oui, j'ai été édifié.
Ouais. Donc, selon vous, l'autorité scientifique aurait dû s'imposer à toute personne douée de raison, quoi.
C'est ça.
Les vaccins de l'époque, quand le vaccin était bon, les masques, c'était quand même pas une nouveauté. C'était quand même un accessoire qui était connu depuis longtemps, utilisé couramment dans l'industrie, la chimie, la SNCF, etc.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est pas... Et le masque aussi.
Oui.
Je laisse la parole après.
Donc, que l'on prenne cet exemple-là qui vient d'être cité, que l'on prenne l'exemple de Donald Trump, je crois qu'il faut qu'on revienne sur la notion d'émotion. Dans les deux cas, là, on a... c'est le limbisme des gens, là, sur lequel on appuie pour leur comportement et pour finalement faire tomber ce qui pourrait faire autorité. Je ne sais pas si je suis claire là, dans ce que je dis. Mmh. Aujourd'hui, on sait bien que le rationnel n'est pas suffisant dans nos prises de décision, la décision de « je donne de l'autorité à telle personne et pas à telle autre ». Le rationnel ne suffit pas, il y a les émotions à prendre en compte. Et du coup, si on en vient à la thématique de l'éducation, dans la famille ou à l'école, jusqu'à maintenant... jusqu'à très récemment, on ne prenait pas en compte les émotions. On disait qu'un adulte avait l'autorité sur ses enfants, sur des élèves, et il pouvait utiliser la violence, y compris la violence psychologique, et ne pas prendre en compte les émotions de l'autre. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus composer sans. Et finalement, quand j'entends... ce qui fait qu'on ne donne plus l'autorité, c'est parce qu'on n'arrive plus à accepter la frustration, par exemple. Ah, cette loi-là ne me convient pas, donc je ne l'accepte pas parce que c'est trop frustrant. Ben, finalement, j'ai l'impression que ça vient nous dire à quel point c'est important qu'on prenne soin des émotions et qu'on sache quoi en faire plutôt que de se laisser gouverner par elles, surtout quand on a des Donald Trump ou peu importe qui usent de ça pour... nous contrôler.
De ça et de sa puissance économique.
Merci.
Monsieur.
Oui, merci. Je voudrais abonder sur ce thème-là, d'ailleurs, que vous venez de soulever. C'est quelle force peut avoir la croyance sur la réalité, rationnelle, pas seulement la réalité observable, la réalité rationnelle, celle qui est vérifiable, le fait. Parce que le fait est en dehors de toute croyance, finalement. C'est la façon dont nous l'interprétons. Et je pense qu'il existe des gens, une bonne partie de la population humaine, qui fonctionnent sur une référence qui n'est pas celle du modèle occidental. Elle fonctionne par rapport à son ressenti et des croyances qui peuvent ou pas y être associées. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup la force que peuvent avoir les croyances sur sur la réalité factuelle, sur le monde rationnel et cohérent. Pardon, cohérent, pour moi c'est cohérence qui est rationnelle. Mais pour d'autres gens, il est une réalité, c'est ce que je ressens qui n'est pas bon pour moi, c'est une réalité. Même si c'est... Alors, il y a des gens qui ont... le don de faire passer leurs croyances pour des réalités objectives pour tout le monde. On parlait du professeur Raoult, voilà. Mais il a beaucoup d'adeptes. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre d'aspects que pouvait revêtir le complotisme. Parce que cette crise sanitaire, il y a quelques années, il y a 3 ans, a révélé une espèce d'état intérieur. Avant, il y avait bien sûr des complotistes. Complotistes, ils croyaient que finalement l'homme n'était jamais allé sur la Lune, que les vaccins sont là pour nous empoisonner, que je sais pas moi, toutes sortes de... que la Terre est plate. Mais avant, maintenant ils sont au pouvoir aux États-Unis. Alors ça pose quand même question, quelle est la force de la croyance sur la réalité observable? Ça sera peut-être un autre débat. Une autre
ça fois. C'est le prochain café philo. Hein.
Merci.
Ça c'est la semaine prochaine.
On vous attend. Merci en tout cas. Je vous laisse peut-être réagir.
sur les deux interventions, sur la question des émotions, puis effectivement la pension très complémentaire sur la force de la croyance et le jeu de la croyance dans ce rapport à l'autorité. Moi, je me disais, enfin, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit, c'est que, effectivement, dans les trois critères évoqués par Max Weber au début du XXe siècle, donc il faut évidemment actualiser, donc sur la tradition, sur le charisme personnel et sur l'autorité de la raison et de la légalité, en tant que contrat social autour duquel une société se construit et se rassemble. Effectivement, ce qu'on laisse de côté, c'est la question de la vie sensible, de la sensibilité, ce que vous avez évoqué sous le terme d'émotion. Et on peut peut-être, en tout cas, c'est peut-être une piste peut-être pour ouvrir le débat sur d'autres champs encore, se poser la question de savoir si une autorité qui nous semblerait légitime n'est pas une autorité qui, non seulement, comment dire, s'impose à ma raison, par la force de sa conviction, de sa démonstration, mais qui également s'impose, mais de manière non contrainte, non violente, à ma sensibilité. C'est-à-dire qu'elle fait corps avec moi-même, et elle ne heurte pas ma sensibilité. Ce qu'on pourrait évoquer comme sous le terme de bienveillance. Peut-être qu'une autorité légitime, c'est d'abord une autorité bienveillante, au sens propre de bienveillance, qui veille au bien de celui, de celle ou de celles et ceux qui y sont assujettis. C'est ça la bienveillance. Je veille au bien d'eux, au bien-être d'eux. Ce n'est pas forcément dans le cadre de l'éducation, hein, dans le cadre familial. On peut estimer qu'un gouvernement puisse être bienveillant au sens où il veille au bien de celles et ceux qui l'administrent. Et donc effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin en tout cas c'est une question qu'on peut se poser, penser la question de la vie sensible, de l'émotion, comme étant l'un des critères de l'utilité de l'autorité, ce à partir du quoi je vais donner du crédit, reconnaître cette autorité comme autorité. Mais avec peut-être, j'essaie de mettre un peu en tension vos deux interventions, même si elles ne le sont pas nécessairement, avec un risque qui est que cette émotion, positive ou négative, elle correspond à des croyances, c'est-à-dire à des conceptions que je me fais du monde, des représentations du monde, et que une autorité qui viendrait heurter mes croyances, en rappelant simplement des faits, ce que vous disiez, ça me faisait penser au roman dystopique de George Orwell, 1984, dans lequel le ministère de la vérité passe son temps à reconstruire la réalité au gré des alliances, bref, à mentir, dans lequel finalement le ministère de la justice passe son temps à prendre les décisions les plus infâmes, et dans lequel finalement la seule façon de résister à cette autorité totalitaire de 1984 d'Orwell, c'est de réaffirmer, c'est ce que fait Winston, le personnage principal, que 2 et 2 font 4 et ne font pas 5, comme on voudrait bien le lui faire dire. Et donc, finalement, pour revenir un peu au fil de ma discussion, enfin de ma réflexion, se dire finalement que si on prend en considération, et je pense qu'il doit, enfin, en tout cas, peut-être faut-il prendre en considération l'émotion dans la légitimité de l'autorité, le risque est peut-être finalement que notre émotion soit dépendante de la croyance, des croyances que nous nourrissons, bref, du rapport à la réalité, et que tout ce qui vient heurter cette croyance à la réalité, finalement, sera rejeté parce que signe de violence, de douleur, signe finalement de désaccord profond. Finalement, la question c'est jusqu'où faut-il donner crédit à l'émotion, à la sensibilité plutôt, dans la construction et la reconnaissance de l'autorité. Ah, je vous donne la parole.
Justement, en ne la confondant pas avec les croyances et les jugements et les représentations qu'on a sur le monde, parce que nos pensées vont créer nos émotions, et en même temps, nos émotions vont venir réalimenter nos pensées. Donc, en plus, on va appuyer sur le plaisir immédiat, la récompense immédiate, etc. En plus, on va venir renforcer les pensées qui y étaient associées. Et du coup, on est libre de modifier nos pensées pour pouvoir aussi modifier nos émotions. Et là encore, savoir quoi faire de nos émotions pour qu'elles puissent pas tout diriger et nous rendre si contrôlables.
Ouais, c'est ça, ouais. Et manipulable. Ouais.
Juste un mot de la fin. Oui, merci, c'est juste un mot de la fin. Ça a une importance considérable, je pense. N'oubliez pas qu'ils sont plus de 70 millions à avoir voté pour quelqu'un qui ment en permanence aux États-Unis. C'est... Voilà, c'est renversant pour moi, ça. C'est pas... C'est en dehors de mes... Voilà. Et que dans des pays, il y a des pays qui ont élu démocratiquement des populistes, des complotistes. Je ne vais pas citer de nom, vous regardez l'actualité. Voilà. Et c'est une part importante de l'humanité. Merci.
Question, je vous laisse la porte tout de suite. Quelle autorité accordons-nous à ces dirigeants politiques élus sur des croyances erronées?
J'ai un petit élément de réponse, si je peux.
Ce sont les tyrans. Alors, moi, je voudrais relancer un petit peu le débat en évoquant une autre question, qui est la question de l'autorité du chef militaire dans un groupe de soldats. En fait, donc un groupe d'hommes que l'on va rendre solidaires. Donc on va jouer sur leurs émotions. Bien sûr, on va leur apprendre à tuer. On va leur apprendre à utiliser des outils particuliers que sont les armes. Et on va les amener, en fait, au bout du compte, à être capable de faire cohésion, de se porter assistance les uns aux autres en ayant cette mission de détruire d'autres personnes. Alors, sans forcément aller jusqu'à la confrontation, enfin, le vécu d'un conflit, ça c'est en dehors de mon expérience. Bon, pour ce qui me concerne, j'ai passé un temps dans les forces armées pour me rendre compte qu'en fait, il y a, quand on est là-dedans, un cadre qui est extrêmement rassurant, donc qui joue sur les émotions et qui fait que en fait on a besoin, le jour où on sort de ça, on a besoin de prendre sur soi, de réfléchir vraiment qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir et comment je me libère de cette autorité qui est une autorité extrêmement complexe, extrêmement bien organisée. À la fois capable d'obtenir l'adhésion et de manipuler de façon assez compliquée. Je suis incapable d'aller plus loin là-dessus. Mais voilà, ça demande en fait, quand on en sort, de prendre conscience à la fois de l'autorité, de comment on se libère de cette autorité, et en même temps de son caractère rassurant.
Fait penser au thème de la désobéissance civile, même si là, fait penser au thème de la désobéissance civile, même si là on parle du militaire. Je pensais aussi au mot loyauté. Enfin, jusqu'où on peut aller effectivement, parce qu'on obéit à des ordres. Et ça me fait penser aussi à la question de la torture, par exemple en Algérie, enfin historiquement aussi. C'est-à-dire jusqu'où on peut accepter ou au contraire se rebeller contre l'autorité. Qui est rationnel là aussi, en quelque sorte.
Qui est rationnel légal, hein.
Avec le charisme aussi.
Hein. Ouais, non, je crois que c'est important de. Vous avez parlé d'un groupe de soldats.
Ouais.
Moi, je pense que c'est ça. Enfin, tout est là. C'est la force du groupe, de la communauté, etc. Il y a un côté, effectivement, il y a un côté rassurant, comme vous dites, un côté récompense. On voit dans les sectes aussi, hein, que effectivement le gourou, la porte du gourou et comment dire la, 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 Oui, la cohésion du groupe qui fait que c'est très difficile d'en sortir, hein, quand il y a des mécanismes, etc. Donc, mais effectivement, peut-être qu'on a peut-être pas assez, assez insisté sur le côté, comment dire, plus-value pour un individu d'être soumis à une autorité. C'est De Gaulle qui disait les Français sont des moutons.
Sont
des veaux. Sont des veaux, oui. Il y avait aussi bah, le troupeau. Voilà, on est dans le troupeau, on suit, c'est rassurant. Quoi.
Nous sommes des animaux grégaires. Hein. Voilà, effectivement, nous vivons en troupeau.
Oui, monsieur.
Et puis.
Ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant. Jusqu'où peut-on aller pour obéir à une autorité? Alors, c'est un psychologue américain, Stanley Milgram, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc sa célèbre expérience. Donc, un élève à qui on pose des questions, et donc l'individu, à chaque mauvaise réponse, envoie une impulsion électrique imaginaire, Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut accorder du crédit à une autorité? C'est simplement, je ne fais que qu'obéir aux ordres. Oui. Finalement, je ne suis qu'un maillon de la chaîne et je ne fais rien. Quoi. Donc en fait, Stanley Milgram a voulu expliquer comment les horreurs dans les camps de concentration ont été possibles. Bah, moi, je n'ai rien fait, j'ai juste ouvert le camp. Moi, je n'ai rien fait, j'ai juste guidé des... Voilà. Et donc, on rejette la faute finalement sur l'autorité, sur les ordres hiérarchiques. Et on minimise notre participation. Donc, voilà. Comment expliquer une obéissance aveugle, en fin de compte, à une autorité, participer à une horreur et l'accepter? C'est terrifiant. Oui.
Si je puis me permettre, dans le cas de Milgram, je parle. Il y a un élément à ajouter, c'est que l'obéissance s'explique. Alors, il y a plusieurs raisons, mais elle s'explique aussi par la confiance que l'on accorde à l'autorité, au détenteur de l'autorité. En l'occurrence, ici, c'est un homme en blouse blanche qui incarne l'autorité scientifique, et c'est cette autorité dite scientifique qui donne l'ordre de torturer, hein, finalement, d'envoyer des chocs électriques que l'on ne sait pas être fictifs à la personne interrogée. Et donc, c'est cette confiance en l'autorité scientifique qui justifie, finalement, l'obéissance quasi aveugle, en se disant, mais la science ne peut pas me demander de... d'année, quelqu'un à mort.
Alors, pour rester dans les expériences psychologiques, il y a une autre expérience qui a été menée par Salomon H. Oui. Sur la pression d'un groupe.
Sur le conformisme, oui.
Sur le conformisme, voilà. Absolument. Il y a deux lignes A et B. La ligne A est plus longue que la ligne B, voilà, ça crève les yeux. Mais s'il y a un groupe...
C'est une croyance.
Mais s'il y a un groupe qui dit que non, c'est B, ben voilà, pour se conformer, on va admettre quelque chose qui est complètement...
Qui est évidemment faux, enfin, que l'on voit évidemment être faux. Oui, on sait bien que ce segment-là est plus grand que l'autre, et puis on va dire l'inverse. Oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est là.
Demandez la parole.
Ce que je voulais dire, c'est pas sûr... Si c'était sur l'idée que...
On était sur les groupes militaires, la question de l'autorité, la désobéissance civile...
Avant que l'autorité, elle amenait de la sécurité.
Oui, et que qu'on avait besoin...
Le gain.
Voilà, le gain pour la personne assujettie, le gain de cette autorité.
Donc, là, on se dit que l'autorité amènerait de la sécurité. Mais du coup, il y a un présupposé. C'est que cette sécurité... on l'aurait placé à l'extérieur de soi. Si on place la sécurité à l'intérieur de soi, on ne va plus la rechercher dans ce cadre d'autorité militaire ou je ne sais quoi, qui, je ne sais pas si c'est un cadre qui permet l'expression de la liberté. C'était ça la distinction au début. L'autorité fixe des obligations, c'est l'expression de la liberté, et pas des contraintes qui seraient la négation de la liberté. Et du coup, voilà, peut-être se dire si la sécurité, on la place à l'intérieur de soi, du coup, on n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Pour autant, quand on est enfant, on a besoin d'être contenu.
C'est quoi placer la sécurité à l'intérieur de soi?
C'est merci, merci pour la question, parce que moi, ça m'aide à essayer de le formuler clairement. C'est être capable de se sentir en sécurité sans que cette sécurité nous soit donnée par quelqu'un à l'extérieur. Quand on est enfant, on est vulnérable, on a besoin d'une figure d'attachement qui va nous donner de la sécurité parce qu'on est pleinement vulnérable et sans figure d'attachement, on va mourir. Sauf que quand on n'est plus un enfant, quand on est un adulte, eh bien, cette sécurité, on n'a plus besoin de l'attendre de l'extérieur si on l'a installée à l'intérieur de nous. Et donc, on n'a plus besoin de l'attendre d'un gourou.
Être en paix avec soi-même.
Je pense que ça apporte de la paix, oui.
Ouais. N'hésitez pas.
Je voulais juste une petite précision. Il faut bien distinguer l'autorité et les individus qui parlent au nom d'une certaine autorité. Alors c'est Thomas d'Aquin qui disait que le rôle du philosophe est de faire des distinctions. Bon voilà, faut distinguer. Alors par exemple l'autorité scientifique, bon c'est une bonne chose, mais lorsque des individus s'expriment au nom d'une science, mais pour d'autres, pour leur propre profit. Par exemple, alors là, donc, du coup, c'est contestable, où je pense, par exemple, aussi à l'autorité religieuse. Nous avons, par exemple, alors dans le christianisme, nous avons des textes, les évangiles qui disent des choses, et finalement, avec les développements postérieurs, le clergé et la religion elle-même, qui peuvent dire autre chose, mais qui peuvent être en contradiction avec les textes. Raison pour laquelle l'Église a pendant longtemps interdit la lecture de la Bible. Oui, et on peut faire le même rapprochement avec d'autres religions, le monothéisme, notamment l'islam.
Oui, je voudrais évoquer tout à fait autre chose, c'est-à-dire le futur. Parce que quelle autorité allons-nous accorder à ces machines qui disent, qui parlent, qui dictent, qui font, j'ai envie de dire, qui exercent le risque est qu'elles exercent une certaine autorité parce que nous leur accordons des compétences qui sont a priori, ou en tout cas encore maintenant, des compétences humaines.
Dernière intervention. Il y a tout l'heure de conclure. Non, pas de. Très bien. Moi, je merci pour ces échanges très riches. J'aurais voulu partir du lieu où l'autorité finalement s'impose de manière quasi. On a l'impression, en tout cas, c'est peut-être une impression fausse, mais une illusion, mais quasi naturelle, qui est celui de l'éducation. Et je voudrais partir sans manipuler trop de références, mais d'un philosophe qui a travaillé sur l'éducation, qui pourtant lui n'a jamais eu d'enfant, Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, donc philosophe allemand de l'Aufklärung, enfin en deuxième partie du XVIIIe siècle, donc philosophe des Lumières allemandes. Kant publie un traité de pédagogie, des réflexions sur l'éducation, dans lesquelles il distingue finalement, et je pense que ça peut nous servir pour un peu éclairer cette question d'autorité au-delà du champ éducatif, il distingue les trois finalités et les trois champs de l'autorité éducative. Une autorité, dit Kant, c'est ce qu'il doit apporter à l'enfant, alors l'autorité familiale ou scolaire, c'est ce qui doit apporter à l'enfant du soin. D'abord, l'autorité, c'est ce qui soigne. Parce qu'il y a une vulnérabilité de l'enfant, physique, psychologique. Et que l'enfant, sans cet apport extérieur, ne peut pas se prendre en charge lui-même. Donc il a besoin du soin au sens propre de ce terme-là, c'est-à-dire de l'attention que l'autorité porte
à sa vie, à sa survie, à son développement. L'autorité, dit Kant, c'est également ce qui va imposer, alors attention, on est avec un philosophe du 18e siècle, c'est ce qui impose à l'enfant une discipline. Il emploie le terme de discipline, au sens où la discipline, c'est ce qui va empêcher l'enfant de partir de travers. Alors, il prend l'exemple du tuteur. Le tuteur, c'est ce qui permet à l'automate de pousser droit. Voilà. Et ben, la discipline, c'est ce qui va permettre à l'enfant de pousser droit. Et finalement, c'est ce qui va lutter contre, c'est une distinction qu'on peut aujourd'hui remettre en cause, me semble-t-il, contre la sauvagerie naturelle de l'enfant, qui s'exprimerait dans des pulsions, dans des instincts. Donc finalement, la discipline, pour le dire très, très simplement, c'est ce qui impose un cadre, des limites, des règles. Et puis, donc, on soigne, on discipline, et puis l'éducation, l'autorité éducative, c'est ce qui nourrit aussi l'enfant d'une culture. D'une culture, c'est-à-dire, c'est ce qui apporte des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences explicites ou implicites, bref, des façons de se tenir soi-même face à soi-même, pour s'estimer soi-même, de se tenir soi-même face aux autres, pour les reconnaître en tant que personne digne de respect. Et finalement, une autorité éducative, c'est cette combinaison, cette conjugaison du soin, de la discipline et de la culture. Mais Kant, et c'est votre référence à Milgram et puis à la question de l'autorité militaire et de la désobéissance civique qui m'a fait penser à cette référence. Mais Kant dit bien que l'éducation, c'est une citation de mémoire, c'est cette autorité qui impose l'exercice de la liberté sous la contrainte, l'exercice de la liberté sous la contrainte, de façon provisoire. C'est-à-dire que la finalité de l'éducation, on l'avait évoqué au tout début du débat, c'est précisément de faire de ce petit humain, de cette petite humaine, son propre maître, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus besoin d'autre autorité que de lui-même pour se tenir dans l'existence, parce qu'il a été soigné, parce qu'il a été discipliné, parce qu'il a été nourri de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et finalement, que l'éducation tire son autorité de son caractère provisoire. Une autorité qui perdurerait au-delà de l'âge prérequis pour cela, en gros, ce qu'il appelle la minorité dans son langage, c'est une autorité qui ne serait plus une autorité, c'est une autorité qui deviendrait une domination, qui deviendrait une tyrannie. Et Kant ajoute, mais c'est étrange, dit-il, dans Qu'est-ce que les Lumières, c'est le tout début de son opuscule de 1784, Qu'est-ce que les Lumières, Kant ajoute, mais c'est étrange parce qu'en fait, on s'aperçoit que des hommes et des femmes qui sont, entre guillemets, majeurs, c'est-à-dire qui ont le plein exercice de leur raison, réclament des tuteurs. Et il nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de sécurité, ce besoin d'autorité? Alors, on y revient au besoin de sécurité. Il nous dit, mais si nous réclamons l'autorité au-delà même de cette période durant laquelle nous en avons naturellement besoin, c'est pour deux raisons. C'est par paresse et par lâcheté. La paresse, c'est-à-dire que c'est tellement confortable de laisser l'autorité penser à sa place. C'est tellement confortable de laisser l'autorité nous gouverner. C'est tellement confortable de laisser un Donald Trump nous dire ce qu'on doit penser, de laisser un François Bayrou parler de submersion migratoire. C'est tellement portable, sans trop se révolter, c'est tellement confortable finalement de laisser des tuteurs décider à notre place, des coachs de vie, des coachs de... Voilà, nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on a pensé, comment s'habiller, bref, etc. Ça, c'est la paresse. Finalement, ça demande un certain effort d'essayer d'être à soi-même sa propre autorité. Et puis, c'est la lâcheté. La lâcheté, c'est-à-dire que lorsque l'on accepte de s'affranchir de l'autorité, bah déjà, on risque peut-être de se prendre des coups, d'aller à
dit monsieur un peu à contre-courant, d'être un peu repose-poil, d'être un peu poil à gratter. Ça, c'est le premier point. On risque, vous évoquiez les désobéissants, on risque des sanctions, on risque même la mort. Enfin, on les a vus, hein, c'est désobéissants, c'est déserteurs, c'est rebelles qui se font fusiller par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et on risque aussi, et surtout finalement, parce qu'on est à soi-même sa propre autorité, on risque de ne pas avoir le courage de l'assumer. Et il faut un courage, et ça c'est le courage de la volonté, que d'essayer de s'affranchir de l'autorité sans tomber dans ce qui menace l'absence d'autorité, c'est-à-dire le chaos, la guerre de tous contre tous, finalement. Ce pourquoi on a besoin d'autorité, c'est pour éviter d'abord la guerre de tous contre tous, le chaos généralisé, la guerre civile, la tension permanente, le conflit. Et le courage, finalement, de se donner à soi-même ses propres règles qui nous sécurisent et qui sécurisent le rapport à autrui. Et finalement, cette philosophie tirée de l'œuvre d'Emmanuel Kant, qui place l'autorité comme étant une nécessité chez le développement de l'humain, mais comme étant finalement le risque d'une domination lorsqu'elle perdure, ça nous laisse penser finalement quelle est la place de l'autorité aujourd'hui. Peut-être que nous sommes à la fois soit de grands enfants qui ne gérons pas la frustration et qui refusons donc l'autorité lorsqu'elle va contre notre intérêt, soit des adultes trop orgueilleux qui pensons abusivement que toute autorité est à rejeter, qu'il s'agisse de l'autorité du savoir, de la science, qu'il s'agisse de l'autorité de tel ou tel champ de compétences, etc. Et finalement, ce sur quoi j'aurais envie de conclure, c'est plutôt sur une note optimiste, c'est que entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, le travail de l'éducation a fait son œuvre. Alors certes, le travail de l'éducation fait son œuvre. Au moment où Kant écrit ses réflexions sur l'éducation, l'éducation, elle concerne une infime minorité de la population européenne à l'époque. Aujourd'hui, nos enfants sont scolarisés, éduqués, on a accès à un savoir infini par un clic sur un moteur de recherche. On a tout le savoir du monde. Tout le savoir du monde à hauteur de clic. Et donc on pourrait estimer que finalement nous avons tout pour être éclairés, autonomes, libres, responsables, finalement capables de discerner les bonnes, les mauvaises autorités, etc. Mais peut-être que la seule autorité qui vaille vraiment la peine d'être suivie, et vous l'avez évoqué avec l'expérience de Milgram et avec la question de l'autorité militaire, c'est peut-être l'autorité de la conscience. C'est-à-dire que ce qui justifie finalement la légitimité de l'autorité, ce n'est pas tant ces critères traditionnels qu'on évoquait avec Weber, sur la tradition, le charisme, la rationalité, la légalité, que celle qui parle à ma conscience, qui parle à ma conscience, c'est-à-dire une conscience qui ne se coupe pas de ses émotions et qui ne se coupe pas du rapport à soi-même et à autrui. Lorsque Thoreau, le philosophe américain du 19e siècle, apprend que les États-Unis d'Amérique financent grâce à son impôt la guerre qu'ils mènent contre le Mexique et qu'ils financent grâce à son impôt l'esclavage qu'il voit dans la région où il habite, puisqu'il habitait au sud des États-Unis, Thoreau décide, au nom de l'autorité de sa conscience, de désobéir à la loi et de ne pas payer l'impôt. Il entre en désobéissance. C'est son fameux texte sur la désobéissance civile. Il en paye le prix, il va être incarcéré, emprisonné, il va même en partie s'isoler. Et Thoreau distingue, je voudrais terminer sur cette distinction, deux types de personnes. En français, ça fait un jeu de mots, en anglais pas forcément. Il distingue les hommes debout et les hommes debout. Les hommes debout, en un seul mot, ceux qui s'élèvent face aux autorités légales qui leur imposent telle ou telle ignominie, telle ou telle bêtise, et souvent c'est la même chose, au nom de la force de leur conscience, de l'autorité morale de leur conscience, et les hommes debout, debout, B-O-U-E, ceux qui, dit Thoreau, forment la glaise, le terreau de la servilité étatique. C'est son expression. Autrement dit, celles et ceux qui, parce que c'est une autorité légale ou supposée légale qui a proféré telle ou telle décision, se sentent contraints et obligés de la respecter. Et finalement, c'est cet abandon de l'autorité morale qui justifie la perversion d'autorité en domination, qui justifie la tyrannie, qui justifie l'obéissance servile à la tyrannie, qui justifie ce que monsieur vous évoquiez, l'obéissance volontaire, la tyrannie, la servitude volontaire d'un Laboétie. Et finalement, face à ces hommes debout, de B-O-U-E, peut-être faut-il se rappeler, il ne tient qu'à nous d'être debout, comme ont été ces justes qui ont sauvé ces juifs qui partaient à la mort, comme l'ont été ces résistants, comme nous pouvons tous l'être, à des petites échelles, dans l'économie de nos vies, essayer d'être debout, essayer d'être sa propre autorité, essayer de, finalement d'avoir une morale qui résonne en nous, plutôt que la voix de l'État, souvent pervertie, qui nous oblige à faire ce que la morale réprouve. Je vous remercie. Un temps donc d'échange et de convivialité vous est proposé au premier étage. N'hésitez pas. Merci. Et un petit coup de main pour ranger les chaises. Merci.
L'avant-dernière fois, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton.
Hein, t'avais pas enregistré ?